RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue à la fois sur RMC le dimanche matin mais aussi sur 01 TV dès le vendredi en vidéo pour, vous le savez, De quoi je me mail, votre rendez-vous dédié à la tech. Donc merci d'être là, dernier De quoi je me mail avant les fêtes, on sera de retour le 8 janvier, notez-le d'ores et déjà. Avec au menu de ce De quoi je me mail tout à l'heure, la découverte d'une marque, d'un constructeur de télé que vous ne connaissez peut-être pas ou peu. Il s'agit d'iSense. Et pourtant, iSense est un monstre en matière d'électronique en Chine. iSense essaie de s'implanter en France. On en parlera avec son porte-parole français qui sera mon invité en deuxième partie de De quoi je me mail. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter, bien sûr, mais aussi sur la page Facebook de De quoi je me mail. Merci d'être là. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT, bien sûr. Et le club de la presse IT cette semaine, c'est avec Frédéric Bianchi. Salut Frédéric.
Bonjour, salut François, salut à tous.
Je suis très heureux de te retrouver Fred, journaliste à BFM Business, un fin connaisseur évidemment de la tech, de la conso. Et on va s'intéresser avec toi à toute l'actu tech de cette semaine, Frédéric, et commencer par le coup de tonnerre 5G de Free. Hein. Ça y est, on le savait, hein, c'était un secret de polichinelle, mais Free a appuyé sur le bouton 5G et ça fait mal.
Oui, ça fait mal, oui. Alors Free, c'est vrai que depuis quelques années, ils avaient une image un peu plus consensuelle. Mmh. Hein, c'était un peu moins le trublion.
Oui, ils rentraient un peu dans les rangs. Hein.
Exactement, oui. C'est d'ailleurs, ça. Ils avaient perdu un peu d'abonnés. Alors ça, c'était en 2018. Ils en avaient regagné depuis dans le mobile. Mais bon, voilà.
Avec le semi-échec de la Freebox Delta aussi,
la Freebox Delta, qui n'a pas très bien marché, qui était excessivement chère, on s'en rappelle, avec l'abonnement et l'enceinte de nos amis
de Vialet,
exactement.
Exactement.
Donc là, ils reviennent. Ils reviennent un peu aux fondamentaux. Les deux fondamentaux de Free, on le rappelle, les prix et la provoque. Alors hier, ça a commencé par la provoque, avec une vidéo postée sur Twitter par le compte de Free, où on voit Xavier Niel, je ne sais pas si on peut... je pense que la plupart ont dû la voir.
Si
5G,
vous êtes avec
nous
en vidéo, vous la voyez, hein, bien sûr.
Donc c'est un détournement du documentaire Hold Up, un peu conspirationniste autour du coronavirus. Donc là, ils l'ont fait version 5G, on voit Xavier Niel qui est interrogé, qui dit oui, la 5G, ça rend les chauves impuissants, ça rend les impuissants chauves, etc.
Ça a été créé à Tchernobyl.
Ça a été créé à Tchernobyl, exactement. Voilà. Bon voilà, ça c'est pour faire marrer.
C'est amusant d'ailleurs de prendre ce prisme un petit peu de la polémique sur la 5G et en faire une blague, quoi.
Exactement, voilà. Oui. On sent que chez Niel, il y a toujours cette volonté de provoquer. Et je pense que ça doit l'agacer aussi, tous ces débats 5G.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc ils reviennent avec ça, mais surtout ils reviennent avec un prix. Et le prix, alors on s'y attendait, parce qu'ils ont donné des interviews, hein, les patrons de Free, ces dernières semaines dans la presse. Ils avaient dit, nous, on viendra avec la 5G à un prix. Ce prix, c'est le même que de la 4G, c'est le même que la 3G, finalement. C'est 20€ par mois. Finalement, la 5G est offerte chez Free. Encore une fois, la 5G est offerte. Alors, 20€ par mois...
Elle est au même prix que la 4G.
Elle est au même prix que la 4G. C'est ce qu'ils avaient fait en 2000, je crois que c'était en 2013-2014. Mmh. Ils avaient dit, on offre la 4G pour le prix de la 5G. Et donc là, pour 20€ par mois, je regarde, on a 150 gigas quand même de données par mois, ce qui est énorme, hein, énorme. 20€ par mois. Alors, si on est abonné Freebox, ça tombe à 16, hein, donc toujours pareil. Et si on a la Freebox Pop, ça tombe même à 10€. Donc, c'est vraiment...
Et on est en illimité, hein, si on a une Freebox.
Et on est en illimité.
C'est ça qui est top, en plus.
On n'est pas limité à 150 gigas. Donc oui, c'est vraiment... Ça change un petit peu la donne. Mmh. Alors, jusqu'à présent, on était... Alors, pour 150 gigas, chez Orange, je crois qu'on est à plus de 60€ par mois. Orange a toujours été un peu plus cher avec un réseau un peu plus développé.
Costaud, ouais.
Alors du coup, les autres, ils se sont adaptés. Hein. Hier, Red, SFR, qui est donc l'actionnaire principal de notre groupe, a sorti une offre à 25€ pour 130 gigas.
Et qui essaie de coller au bas, en fait.
Voilà, c'est ce qui s'était passé. Finalement, on reproduit ce qui s'était passé pour la 4G, où les autres opérateurs, ils sont obligés de s'adapter pour ne pas être trop largués en termes de prix. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, pour le moment, on parle d'un potentiel. La 5G, elle n'est pas vraiment là. Alors, Free assure qu'ils ont la plus grosse couverture 5G en France. Ils assurent que 40% de la population peut être couverte avec leur réseau. Sauf que ces 40%, on sait que ce n'est pas de la vraie 5G. C'est de la sous-5G, hein, à 700 MHz. La vraie 5G, elle est
à 3,5 GHz.
Alors, même en 3,5 GHz, ils ont quand même une belle couverture. Hein. Ils annoncent 220 antennes allumées. C'est un peu plus que les autres pour le moment. Donc oui, leur réseau semble cette fois plus développé que ce qu'ils avaient pu avoir pour la 4G. Bon, sauf que le marché n'y est pas encore. Hein. Les portables 5G, ils sont pas vraiment là.
Alors, il y en a quelques-uns. Hein, il y a les nouveaux iPhones.
Oui, non, les portables sont là. Ils sont pas dans la population.
Non,
pas
c'est
beaucoup.
Ça. Ouais, bien sûr.
L'équipement n'est pas encore très développé. Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas la 5G. On rappelle que Paris, on l'attend pour 2021. On l'espère pour 2021.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que tout semaines. Paris est couvert. Enfin, le pourtour de Paris, oui. La banlieue est couverte en 5G.
C'est le village. Paris, c'est le village gaulois.
C'est le village gaulois qui n'est pas couvert.
Des légions romaines.
Rappelons qu'il faut non pas l'autorisation, parce que c'est ça qui est un peu paradoxal dans cette histoire-là. Les opérateurs n'ont pas besoin de l'autorisation d'un maire pour allumer la 5G, mais disons que là, il y a une espèce de...
Il y a une convention
citoyenne. De gentleman agreement,
exactement.
Là.
Et les opérateurs ont décidé de respecter cette convention citoyenne.
Voilà. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai l'impression que...
Oui, non, je pense qu'ils veulent...
ils veulent quand même attaquer
Paris. Ils sont prêts à dégainer, ils veulent la lancer. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Alors là, je pense, enfin voilà, je vais essayer de faire mes prévisions boule de cristal. Je pense que Free, effectivement, comme ce qu'ils avaient fait sur la 4G, ils vont prendre certainement, ils vont récupérer beaucoup d'abonnés parce qu'ils ont un prix vraiment agressif. Après, les autres opérateurs, petit à petit, vont prendre le relais. Et c'est ce qu'on avait vu à partir de 2018. Free avait perdu beaucoup d'abonnés. Alors, pas tant en 4G, mais c'était surtout sur leur offre à 2 euros.
Qui étaient les petits forfaits.
Voilà, les petits forfaits. Bon, qui intéresse moins de gens, alors que c'était bien en 2012, c'était vraiment une offre très agressive. Ça correspondait plus trop aux usages à partir de 2018 et Free avait commencé à perdre pas mal d'abonnés. Là, ils en ont regagné en 2019, il me semble. Donc, je pense qu'ils vont continuer sur leur foulée avec cette 5G au prix agressif. Après, les autres opérateurs, comme à chaque fois, ils vont s'adapter, ils vont arriver avec des offres intéressantes, Red, BNU, des offres low cost. Et ça va un petit peu rétablir les forces en présence. Mais en tout cas, voilà, gros coup de Free.
Et puis, on peut dire que là, tous les opérateurs français, ça y est, ont lancé leur offre 5G, leur offre commerciale de 5G. Encore une fois, et rappelons-le, ça, c'est un petit conseil qu'on peut vous donner. Vous avez un téléphone relativement récent, ce n'est pas la peine de vous exciter derrière la 5G. La 5G, c'est un marathon. Ça vient juste de commencer. C'est une longue course. Donc, on n'est pas obligé de changer son téléphone tout de suite.
Non, il n'y a pas vraiment d'usage aujourd'hui.
Il n'y a pas encore vraiment d'usage.
Avec la 4G, on peut à peu près tout faire, ce qui peut être fait.
Exactement. Mais dans quelques années, ça changera sans doute la donne, et notamment en 2023, où le cœur de réseau des opérateurs passera vraiment en 5G, et là, ça changera la donne. Autre gros titre d'actualité de cette semaine, c'est cette panne incroyable, parce que c'est incroyable. Moi aussi, j'ai été victime, et sans doute vous aussi, de cette immense panne chez Google. Je crois que ça ne s'est jamais vu, un truc comme ça.
Ça ne s'est pas vu. Je crois qu'il y en avait une en 2005. Je me suis renseigné auprès des spécialistes.
Oui, mais on n'était pas nés.
Moi, j'étais pas né
à l'époque. Voilà.
C'est pas majeur. Moi, j'étais
juste,
encore mineur.
Tout juste.
J'avais pas le droit d'aller sur Internet. En 2005, donc, là, c'est vraiment inédit. Alors, ça a pris une ampleur. Donc, ça s'est passé lundi, 12h30. Moi, j'étais sur Internet. J'allais sur YouTube chercher une vidéo. Et là, je vois le petit logo du singe.
Le petit singe. Quand on voit ce petit singe, en général, c'est pas bon signe.
Non, c'est pas bon signe. Ce singe me dit que le service est inaccessible. Je dis, bon, d'accord, 3 minutes, ça va venir. Et puis ça dure, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Donc, ça revient pas. Je vais envoyer un mail. alors, je pouvais envoyer les mails. Mais par contre, j'avais plus mes adresses préenregistrées. Évidemment, les adresses mails, c'est comme les numéros de téléphone, on les connaît plus. On sait pas à qui on envoie des mails. Donc voilà, on s'est aperçu petit à petit, en rentrant service par service, que tous les services de Google étaient bloqués. Presque tous. Donc c'était les services, donc on pouvait y accéder en navigation privée. Sur YouTube, on pouvait accéder à YouTube en navigation privée. C'est un problème d'authentification. En gros, tous les sites sur lesquels il faut s'identifier n'étaient plus accessibles. Donc voilà, Gmail, ça fonctionnait plus très bien. YouTube, on ne pouvait plus y aller, etc., etc. Donc oui, ça a pris une ampleur colossale pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, ces services-là, ils sont dans nos vies d'importance capitale.
Et puis, il y a des milliards de gens qui se servent de ces services Google au quotidien.
Ça a un impact. Alors, c'était ciblé au début européen, mais les États-Unis ont été touchés, le Japon aussi. Donc voilà, on voit que quand Google ou Facebook a un problème, c'est immédiatement 500 millions, 1 milliard de personnes dans le monde qui subissent cette panne.
Ça fait réfléchir quand même.
Oui, le pouvoir qu'ont ces gens-là...
On s'en rend pas compte, mais...
Est énorme. Alors après, Bon, c'est supportable. On peut supporter de ne pas avoir accès à sa boîte mail pendant une demi-heure. Mais voilà, ils ont un impact colossal sur 10, 15, 20% de l'humanité en quelques minutes.
Alors, ce n'était pas un piratage, hein, visiblement, parce qu'il y a eu ces rumeurs comme quoi ils avaient été attaqués. On sait ou pas ce qui s'est passé ?
Ce n'est pas très clair, en fait. Non, ils sont pas rentrés dans le détail. Ils disent que c'est un problème donc, lié bien à l'authentification. Ils parlent de quotas surchargés sur certains réseaux. Donc voilà, la panne, elle est très technique. Ils reviendront certainement plus tard parce qu'ils ont quand même des responsabilités. Ils ont des services payants. On rappelle qu'il y a Google Workplace. On est en pandémie mondiale avec un télétravail très développé. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas pu travailler. Ce n'est pas simplement aller regarder des vidéos rigolotes sur YouTube, hein, qui étaient, moi, j'ai pu le supporter pendant une heure et demie de ne pas voir ma vidéo. Mais des gens qui bossent, qui devaient rendre des rapports, qui devaient être en réunion, en Google Meet, avec des conférences. Là, c'était bien plus problématique.
Donc, voilà, tous les services d'office de Google.
On n'avait plus accès à Google Doc, à Google Drive, les services bureautiques. Donc, oui, c'était problématique. Bon, c'est un petit coup de mauvaise image pour Google. Après, voilà, Google est tellement important qu'on a déjà oublié. Ça a duré qu'1h30, mais ça a pris une ampleur énorme. On parlait que de ça pendant une heure sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe, Google down? Voilà, donc c'était inédit. Et on voit que malgré le gigantisme de ces entreprises-là, qui ont des serveurs dans le monde,
ils peuvent avoir
ces petites pannes. Encore une fois, c'est pas très grave, mais c'était très intense parce pendant une heure et demie.
On pourrait imaginer qu'il y a une redondance monstrueuse de tous ces services-là, que quand il y a un truc qui tombe en panne, il y a un secours, enfin voilà, comme un groupe électrogène qui se mettrait en route. Finalement, quand il y a un problème, il y a un problème et il est global.
Il est global.
C'est ça qui est étonnant. Alors, est-ce que l'Europe mettra Google en panne ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un débat qui est ouvert et qui va prendre du temps, qui est d'une importance extrême. L'Europe veut s'attaquer aux GAFA et les réguler.
Exactement. Alors, c'est pas que les GAFA, parce que voilà, il y a la Commission européenne a présenté une série de mesures, ce qu'ils appellent le DMA et le DSA, Digital Service Act et Digital Market Act. qui sont les nouvelles règles de l'arbitre européen. Ça va constituer la Bible, exactement. Jusqu'à présent, le secteur du numérique, il est régulé par une directive qui date de 2000. T'imagines l'état de l'art du numérique en 2000. Ça s'appelle la directive e-commerce. À l'époque, le numérique, c'était globalement le e-commerce. Ça s'arrêtait un peu là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a changé de dimension et l'Europe, les États-Unis aussi, tous les pays du monde, devant le gigantisme et la puissance. On disait Google. Google, il y a un problème, ça touche 1 milliard de personnes. Il faut réguler tout ça. Alors, le DSA, Digital Service Act, ça concerne surtout les réseaux sociaux. C'est la lutte contre la haine en ligne, les propos racistes, Donc, ça concerne surtout les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils sont ? Alors, pour le moment, ce DSA, ça devrait rentrer en vigueur que dans 2 ans. On va discuter aujourd'hui ce qu'a présenté le commissaire Thierry Breton hier et Margaret Vestager. Ce sont des pistes un peu de réflexion. Alors, c'est déjà un petit peu structuré,
mais c'est assez précis.
On va en discuter. Oui. On va voir ce qu'on va faire passer. Globalement, ce qu'on peut dire sur le Digital Service Act, c'est que ça concerne surtout la modération. Les plateformes vont devoir avoir nombre de modérateurs suffisant. Alors, on s'attendait à un changement. On appelle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les réseaux sociaux changent de statut. Aujourd'hui, ils sont hébergeurs. Ils ne sont pas responsables de leur contenu. On veut qu'ils deviennent responsables de leur contenu. L'Union européenne dit non. Ils vont garder le statut d'hébergeur. Ils ne pourront pas censurer a priori, ne seront pas des éditeurs comme on parle de la presse.
Alors qu'il y avait ce débat à un moment.
Oui, il y avait ce débat-là.
On voulait qu'ils aient la responsabilité d'éditeur.
Ouais, exactement. C'est trop dangereux, c'est trop touchy. Vraiment, ce sont des sujets très sensibles sur la liberté d'expression. On ne peut plus rien dire, tout ça. On sent que c'est trop dangereux. Donc, ils auront obligation de supprimer des contenus. Ils devront avoir des pools de modérateurs. Ils en ont évidemment énormément. Il y aura peut-être des quotas en fonction de la taille, hein, sous peine d'une amende jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. En gros, pour l'univers réseaux sociaux, il y a une deuxième directive, ça c'est le Digital Market Act, ça c'est pour la partie un peu business. Ça va concerner le e-commerce, ça va concerner Apple,
bien sûr,
ça va concerner Google.
Et son App Store, entre autres.
Exactement. Donc là, pour donner des gages aux Américains, parce que le problème, c'est que ces mesures-là, les États-Unis disent « Ouais, vous avez aucun GAFA, vous nous embêtez avec vos directives. » Voilà, alors l'Europe dit « Non, ça ne concernera pas que les GAFA, ça concernera les sociétés qu'ils appellent les plateformes systémiques, qui sont en gros les portes d'entrée de l'Internet. » Alors, t'as évidemment les GAFA, mais il y a aussi Microsoft, il y a aussi Alibaba, il y a aussi, voilà, il y a aussi les entreprises chinoises, TikTok. Voilà, pour ces entreprises-là.
C'est pas un focus américain,
non,
hein. Il faut surtout pas.
C'est pas un focus américain,
même si
on sait qu'aujourd'hui,
la grosse
Internet,
majorité de ces services proviennent de là-bas.
Surtout en Europe, bien sûr. C'est surtout là-bas. Donc là, ils auront des obligations, notamment, alors il y a une bonne partie qui concerne Amazon, sans le citer. Les gens qui vendent sur Amazon, eh bien, on ne pourra plus utiliser les informations. Amazon, par exemple, aujourd'hui, utilise des informations de leurs vendeurs, les clients. Ils voient, par exemple, tiens, tel fabricant de baskets, ils vendent beaucoup de baskets. Je sais à qui ils vendent, je sais combien ils en vendent, à quelle fréquence. Mm-hmm. Moi, je vais utiliser ces données-là pour proposer un produit comme eux, mais moins cher. Voilà. Donc ça, ce sera interdit. Ça va être difficile à faire rentrer cette mesure, parce que ce que fait Amazon là, c'est ce que font finalement tous les distributeurs, Carrefour, tout ça, hein, quand ils font les marques de distributeurs, c'est exactement ce qu'ils font. Donc il va falloir que ça passe. Voilà, le but de tout ça, ça va mettre du temps, c'est de réguler ces géants de l'Internet qui ont un poids considérable dans nos vies, dans nos loisirs,
bien sûr,
dans notre consommation.
Et qui n'écrase pas, on va dire, les petits acteurs locaux,
voilà,
qui essaient de subsister.
Se développer,
voilà,
d'autres écosystèmes.
C'est clair.
On va voir si ça va passer et si ça fonctionne vraiment.
Voilà, et puis il y a aussi cette fameuse souveraineté, mais bon, ça c'est un autre débat qu'on évoquera sans doute un petit peu plus tard. L'actu cette semaine aussi dans la tech, eh bien, c'est ce fameux jeu, hein, ce fameux jeu Cyberpunk que vous connaissez peut-être. Si vous êtes un fan de jeu, ce Cyberpunk 2077 est un jeu qui était très attendu depuis de nombreuses années. Un budget colossal, plus de 300 millions de dollars de budget pour créer ce jeu.
Oui. C'est très beau là, pour ceux qui nous regardent là.
Voilà, alors c'est très beau.
Très belles images. Hein.
Sur
on
PC.
On est happé.
Sur PC malheureusement, parce que c'est ça le problème, c'est que ce jeu visiblement est sorti beaucoup trop tôt, hein, Frédéric.
Oui, alors c'est un jeu qui avait été, il me semble, pré-annoncé en 2012.
Oui,
on attendait depuis des années à l'E3, on avait eu une bande-annonce splendide, on se disait ça va être énorme. On rappelle, c'est un éditeur polonais, c'est des Project Red, qui est habitué des blockbusters, qui avait fait The Witcher, la série The Witcher, notamment The Witcher 3 en 2005, qui a eu un succès colossal. Et là, on s'est dit, voilà, ils vont lancer un jeu énorme. Il y avait 8 millions de précommandes, le jeu est rentré dans ses frais rien qu'avec les précommandes. Le jeu a été repoussé plein de fois, il est sorti en 2015, 2018, 2019, finalement il arrive en 2020, les gens l'achètent, le reçoivent, on lance le jeu sur PS4, et là, la catastrophe, alors il y a des montages sur Internet qui sont à mourir de rire.
Avec des bugs,
des bugs
graphiques
énormes,
bizarres,
mocheté, on a l'impression de jouer sur un jeu
il y a notamment ce
de
bug.
Wii U de 2012.
Je vois que tu es un connaisseur, et notamment un bug étonnant, sur certaines scènes, on voyait, alors excusez-moi, hein, mais on voyait un pénis à l'entrejambe en fait des personnages, et c'était pas évidemment volontaire.
Je n'ai pas vu ça là, tu m'enverras les vidéos.
Mais ça a fait un buzz sur Twitter, c'est incroyable, sur les réseaux sociaux, et tout le monde envoyait sa photo de ce bug là.
Oui.
Tant et si bien que en fait il y a eu vraiment une fronde de la part des joueurs contre l'éditeur du jeu.
Oui.
C'est monté très très haut. Très très fort.
Exactement.
Parce qu'en fait, le jeu ne fonctionne vraiment aujourd'hui, véritablement et correctement, que sur PC.
Alors sur PC.
Ou sur PS5, parce que, en fait, la version PS4 que vous achetez fonctionne aussi sur PS5, puisque les jeux PS4 sont compatibles PS5. Il est un peu moins buggé.
Voilà. Un peu moins buggé.
Moi, pour y avoir joué sur PS5, le jeu est très agréable. Il est captivant. Hein. Ça n'enlève en rien la qualité du jeu, le scénario. Enfin, c'est vraiment un super jeu. C'est vrai que, bon.
Les critiques de jeux vidéo, les notes qu'on peut avoir, c'est pas aussi exceptionnel que ce qu'on s'attendait, mais ça reste quand même un bon jeu avec un univers très riche, très grand. Voilà. Sur PC, si vous avez un PC assez puissant, le jeu est plutôt joli.
Oui.
Hein, c'est vrai, il y a moins de bugs. Voilà. Si vous avez une PS5, la version que vous avez sur PS4, elle est upgradée, donc c'est un peu mieux. mais ça reste quand même aujourd'hui la PS4 et la Xbox One, c'est le gros du marché.
C'est le gros du marché et tout le monde joue sur ce jeu-là.
Là-dessus, c'est une grosse déception. L'éditeur a promis des remboursements.
Ouais. Mais c'est une première en plus, cette histoire-là.
Alors, c'est une première. Il y a eu des légers couacs parce que finalement, dans le détail, ben, on a le droit de toute façon légalement à être remboursé d'un jeu au bout de 2 semaines. Ouais. Je ne suis pas certain que ça aille au-delà de cette obligation légale. Si vous l'avez acheté chez Micromania ou autre, ben, vous pouvez y aller au bout de 14 jours et vous faire rembourser.
Mais donc visiblement, ça... pour qu'on se fasse rembourser un jeu, Frédéric, il faut qu'il soit toujours dans son petit plastique.
Voilà, il ne faut pas l'avoir ouvert, ne pas y avoir joué.
Voilà.
Donc,
alors
est-ce qu'il y aura une tolérance là-dessus ? On va voir le retour des vendeurs de jeux vidéo. Ça risque d'être difficile. Concernant ceux qui l'ont téléchargé sur PlayStation Network et autres plateformes de téléchargement, bah là, il y a beaucoup de couacs aussi. Hein. L'éditeur a dit que Sony allait rembourser, par exemple. Sony semble dire, bah non, vous l'avez acheté, c'est trop tard. Donc oui, c'est quand même un énorme couac à se demander vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Parce que ces jeux-là, alors même si en fin de développement, il y a ce qu'on appelle le crunch, c'est-à-dire que les développeurs travaillent nuit et jour pour pouvoir sortir un jeu, ils sont quand même testés, retestés derrière. Aucune image du jeu a été montrée sur PS4, sur ces versions ratées. Ouais. On se demande comment ça peut passer à travers des mailles défilées quand on est sur des budgets à 350,
mais je pense qu'en fait, il y avait tellement d'enjeux, un enjeu financier tel pour l'éditeur qu'il a obligé en fait les développeurs à sortir le jeu. Il n'avait plus le choix parce qu'il a été reporté tellement de fois que là, il fallait qu'il sorte avant les fêtes de fin d'année. Et ils ne se sont pas rendus compte en fait que ce jeu n'était pas terminé. Et voilà le résultat aujourd'hui.
Mesurer, en tout cas,
ça
fait un coup de pub. Fiasco.
Voilà, très négatif.
Il y aura des patchs, il y aura des téléchargements qui permettra d'être amélioré, mais bon, c'est un mauvais coup d'image pour CD Projekt Red.
On parle de PlayStation 5, Frédéric. La PlayStation 5 qui, visiblement, est en train de creuser son avance face à la Xbox Series.
Oui.
Rappelons que ce sont les deux consoles de nouvelle génération qui sont sorties en même temps il y a quelques semaines.
Exactement, oui, on a vu des chiffres de vente. Donc 107 000 exemplaires en une semaine pour la PlayStation 5 en France. Ben, je crois que c'est le record absolu de tous les temps. Le précédent record était détenu par la Switch de Nintendo, qui revenait un petit peu de nulle part. Oui. Il en avait vendu 105 000 en une semaine, qui continue à bien se vendre d'ailleurs. C'est un gros, gros retour de Nintendo. Ben là, Sony, ils font encore plus fort, 105 000 exemplaires, sachant qu'il y a des ruptures de stock un peu partout.
Oui, c'est-à-dire que ce chiffre ne veut pas dire grand-chose finalement, puisque la plupart des gens qui veulent une console n'arrivent pas à l'avoir.
Exactement. Hein. S'il y avait eu suffisamment de consoles, combien ils en auraient vendu ? 150 000, 200 000, on ne sait pas.
C'est ça.
En tout cas, oui, c'est un énorme succès. Microsoft, les Xbox Series, je crois qu'ils sont à 35 000. Ce qui est pas mal quand même, hein. Ce qui est pas mal. On sait que Microsoft en France, ils sont moins. C'est une marque qui est moins forte dans le jeu vidéo. Ils sont surtout présents aux États-Unis. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même une attente pour cette next-gen, pour cette nouvelle génération de consoles. C'est lié aussi à cette année un peu particulière aussi. Hein. On est resté à la maison, où les cinémas sont fermés et où les loisirs aujourd'hui, c'est beaucoup les jeux vidéo. Hein. Toutes les ventes de jeux vidéo ont été excellentes cette année. Les consoles ont battu des records et Sony est toujours aussi fort. Hein. La marque PlayStation, elle est depuis 1995, finalement, il n'y a pas de raté. La PlayStation 3, c'était un peu moins bien vendue. Mais voilà, Sony, ça fait 5 générations de consoles qui dominent et là, ils sont bien partis en tout cas pour dominer cette nouvelle génération.
Et cela dit, en toute transparence, c'est vrai que cette console est très réussie, l'interface est superbe et on sent qu'il y a de la puissance derrière et elle donnera un peu, c'est un peu comme la 5G, elle donnera son potentiel dans un an ou deux quand les développeurs auront vraiment compris comment programmer des jeux sublimes et on peut s'attendre.
On aura les patchs de Cyberpunk 2077.
Voilà, deux ans.
Là, on verra la PlayStation 5.
J'espère avant. Pour terminer ce De quoi je me mêle, alors si vous êtes avec nous en vidéo, vous allez pouvoir apprécier cette petite vidéo assez mystérieuse qu'a mis en ligne Oppo. Vous savez qu'Oppo, c'est un constructeur de smartphones qui essaie de creuser son sillon en France, en Europe notamment. Et dans cette course à l'innovation, vous savez, qui anime un petit peu tous les constructeurs de smartphones, Frédéric, il y a ce concept. Alors, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Si vous êtes avec nous en audio simplement, vous avez déjà vu des vidéos de smartphones qui se plient, qui se déplient, ou en vertical ou en horizontal. Là, en fait, ce téléphone se déplie en 3 positions. C'est assez étonnant. Il est dans la longueur. Et en fait, vous avez 3 positions différentes. C'est étonnant.
Donc, il se déplie en 3 parties.
Voilà.
Avec, donc c'est un écran souple qui permet de faire ça. Oppo, ils sont quand même très forts sur l'innovation. Hein. Ils arrivent à attirer l'attention. Je crois qu'ils doivent lancer l'année prochaine, enfin en tout cas ils ont présenté un smartphone qui s'agrandit.
Oui, et hein, qui est superbe.
Oppo
voilà.
Oppo X2021, voilà. Je crois que c'est son nom.
C'est-à-dire qu'au lieu qu'il se déplie, se déroule. En fait.
Voilà. Vous avez un châssis. Il y a un petit moteur qui fait que l'écran...
L'écran, en fait, votre smartphone s'agrandit.
Oui. Voilà. Oppo, je crois qu'ils sont fortement développés ces dernières années. Ils étaient inexistants il y a encore 4-5 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 11 et 12% du marché mondial.
Et ils essaient
de
conquérir l'Europe.
Et ils sont sur l'innovation. Moi, ils me font penser un peu à Asus, donc ici, il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est la marque qu'on voit arriver de nulle part et qui sont à la fois dans du grand public, des volumes et des innovations de pointe qui arrivent un petit peu à proposer des... Alors, je ne sais pas si ce sera des game changers ou si vraiment c'est le futur de l'industrie. En tout cas, voilà, ils proposent des idées, ils innovent. Hein. Il y a quelques années, c'était Samsung. Après, on a vu des petites marques. Là, aujourd'hui, c'est Oppo qui arrive un peu à encore électriser ce marché du smartphone, qui est un peu plan-plan. Hein. Je veux dire, le smartphone, c'est un peu le même depuis 4-5 ans. Ça ne bouge pas trop.
À part du côté de Samsung qui propose des smartphones pliants, mais c'est vrai que ça ne bouge pas beaucoup. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, les images que vous avez pu voir, qui sont quand même assez impressionnantes, ce n'est qu'un concept. Hein. Voilà, ce n'est pas un smartphone qui sortira tout de suite. Voilà, vous savez que les constructeurs proposent des fois des concepts, voient un petit peu comment l'opinion publique réagit aussi. Hein. Vous savez, c'est un peu comme les concept cars dans les salons de temps en temps. Voilà, les constructeurs balancent un concept car, voient ce qui se passe et si ça plaît, eh bien après, ça se transforme en vrai modèle. C'est pareil dans les smartphones, on verra bien. Merci beaucoup Fred, c'était un vrai plaisir pour ce dernier De Quoi Je Me Mêle de l'année. Merci à toi.
Bonne année à tous.
Et on se retrouvera très bientôt pour vous signaler aussi qu'il va y avoir du changement. Alors pour De Quoi Je Me Mêle, pas tout de suite. S'il y a du changement, je vous en parlerai très bientôt. Mais sachez que j'aurai le plaisir de vous retrouver sur BFM Business à partir du 4 janvier. Et Fred, tu seras l'un des piliers de l'émission Tech & Co que j'aurai le plaisir de présenter donc à partir du 4 janvier sur BFM Business à la radio, à la télé, de 20h à 22h du lundi au jeudi. Voilà. Si vous aimez la tech, je vous invite à me rejoindre donc sur BFM Business à partir du 4 janvier. Vous restez avec nous. On va s'intéresser à une marque que tu connais sans doute. Il s'agit d'iSense.
Oui.
C'est un constructeur chinois de télé, mais c'est monstrueux. Ils vendent des millions de télés chaque année. Ils sont aussi positionnés sur l'innovation. On va découvrir cette nouvelle marque qui essaie de s'imposer en France avec son porte-parole. À tout de suite.
De Quoi Je Me Mêle sur RMC et 01 TV. RMC, 01 TV, François Sorel, De Quoi Je Me Mêle.
Nous voilà de retour, De Quoi Je Me Mêle, vous le savez, sur RMC le dimanche matin et bien sûr en vidéo sur 01 TV, la chaîne, sur 01net.tv.com, sur la chaîne YouTube 01 TV bien sûr, et puis en podcast audio que vous pouvez retrouver sur les principaux agrégateurs de podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie avec un focus sur une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit d'iSense. On en parle de temps en temps sur 01 TV. C'est une marque qui, en général, se sert du CES de Las Vegas hein, comme, on va dire, caisson de résonance. Mais on va prendre le temps aujourd'hui de découvrir ce constructeur, cet immense constructeur chinois. Et pour en parler, je reçois Damien Neymarc. Bonjour Damien.
Bonjour François, merci de m'accueillir.
Vous êtes responsable marketing chez iSense en France, Damien. Et on va prendre le temps pour découvrir cette marque. On aime bien ça dans De Quoi Je Me Mêle, hein, prendre le temps pour comprendre pourquoi un nouveau entrant dans le domaine de la télévision, du smartphone, arrive chez nous. Mais il faut savoir que iSense, ce n'est pas une marque toute jeune. Hein. Vous existez depuis 1969, j'ai vu ça.
Bien vu. Donc, en effet, on a un petit peu plus de 50 ans cette année. Et iSense, c'est au niveau international un très gros fabricant, un très gros industriel de biens de la maison, d'équipements de la maison. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'équipement de la maison? Vous avez des téléviseurs, qui est un sujet que vous traitez souvent ici, mais également le gros électroménager, le petit électroménager. Et en fait, iSense, on est le troisième fabricant mondial de télé, le quatrième fabricant mondial de réfrigérateurs. On fait de la clim, on fait de la vidéoprojection.
Et vous êtes premier en Chine?
On est exactement depuis maintenant 18 ans, on est leader en Chine en valeur. Donc on est vraiment la marque chinoise premium en Asie.
Donc une marque premium.
Tout à fait, exactement. Notre ADN, en fait, il est le même à l'international et en France. C'est on a vraiment vocation à rendre les produits à forte technologie, à très beau design, mais abordables, à les rendre abordables. Ça, c'est vraiment l'ADN du groupe depuis sa création.
Alors, on va parler de vos choix technologiques, de télévision, de rétroprojection, d'électroménager connecté aussi, puisque c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Oui. Mais encore un mot sur l'histoire de Hisense. Ça fait 18 ans donc, que vous êtes, on va dire, au top en Chine. Mais pourquoi on ne vous connaît pas en France, ou si peu?
C'est une bonne question. En fait, le marché local, le marché chinois étant tellement énorme en termes de population, c'est qu'il n'y avait pas eu ce besoin du groupe d'aller s'ouvrir à l'étranger, à l'international.
Oui, il fallait déjà bien servir son pays d'origine, en fait.
Exactement. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, le groupe s'est ouvert à l'international et arrivé au fur et à mesure sur les différentes régions. Mm-hmm. Et en France, on est arrivé uniquement en 2015. C'est aussi pour ça que le public français aujourd'hui nous connaît un peu moins. Même si de par le partenariat sportif, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. On commence à être connus. Mais en tout cas, voilà, en France, la filiale n'a que 5 ans. Donc on vend nos produits uniquement depuis 5 ans en France.
Vous êtes un petit peu comme TCL, finalement. Vous êtes ces gros acteurs asiatiques qui veulent s'émanciper, sortir de leur pays.
Exactement.
Pour essayer
Exactement, parce qu'on on a des bons arguments. On a aujourd'hui des produits qui sont téléviseurs, par exemple, qui sont fabriqués en Europe. On a un R&D qui est également européen. On a des designs qui sont européens.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Ouais, exactement.
Donc vous ne voulez pas simplement vendre des télévisions chinoises en Europe. Il y a une stratégie de développement, de recherche et développement, de construction de télévision, de fabrication en Europe.
Et même si on voulait, en fait, on ne pourrait pas, parce que les goûts asiatiques ne sont pas les mêmes que les goûts européens, ne sont pas les mêmes que les goûts américains.
Même en termes de télé, par exemple.
Même en termes de télé, vous qui connaissez bien ce domaine-là, qui voyagez dans des salons internationaux, vous l'avez dit, CES et autres.
Enfin, quand on pouvait voyager, Damien.
Quand on pouvait voyager, c'est vrai. Et donc, vous avez vu certains produits qui plaisent beaucoup aux Asiatiques, je pense notamment avec des dorures, des couleurs un peu nacrées, etc. qui, de manière générale, faisant des généralités, qui ne nous intéressent pas trop en France. Nous, en France, si on parle de télé, on aime bien des bordures en métal ou des bordures très fines, ce genre de choses. Et donc, on a une approche vraiment, nous, chez Hisense, très régionale. Et quand j'entends région, je parle européenne.
D'accord.
Région européenne.
On le voit, 5 ans, vous êtes arrivé en 2015. Oui. Enfin, en tout cas, cette volonté d'investir en Europe en 2015. Est-ce qu'il y a des pays où vous avez déjà percé? En dehors de la Chine.
Alors oui, si je dois donner quelques exemples, typiquement les pays qu'on a ouverts dans les premiers, je pense notamment à l'Australie, à l'Afrique du Sud, sont aujourd'hui des pays mineurs dans lesquels on est leader. Leader dans ces pays-là. On a fortement accéléré ces dernières années également sur le territoire nord-américain. Et la grosse ambition maintenant du groupe, c'est vraiment de beaucoup mieux travailler la région européenne, et la France en particulier. C'est aussi pour ça que depuis maintenant quelques années, les Français nous voient en tant que sponsors. Je pense notamment à l'Euro de football, qui malheureusement n'a pas eu lieu cette année en 2020 et qui est en effet reporté l'été prochain. Oui. Donc les Français verront la marque Hisense autour du terrain lors de l'Euro 2021. On est également partenaire depuis quelques mois maintenant d'un club de football français, le Paris Saint-Germain. Je ne prends pas parti. En tous les cas, blague mise à part, c'est une marque qui résonne énormément l'international, Asie compris, Amérique
et
Europe.
Donc vous êtes présent sur les maillots des joueurs? Comment ça
pas
se passe?
Pas sur les maillots, mais la marque en fait est présente autour du terrain. D'accord. Lors des matchs domicile du Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Et également, on a les droits d'activation de la marque et des joueurs. Donc on peut prendre la parole avec toute l'imagerie du Paris Saint-Germain.
Donc on peut dire, excusez-moi Damien, mais ça veut dire que 2021, ça va être vraiment le boom, le gros coup d'envoi pour Hisense en matière de communication, notamment en France.
Oui, c'est exactement ça. S'il faut résumer, 2015-2020, Hisense était dans une phase de pénétration de marché.
Se structurer, etc.
En termes d'équipe, de ressources humaines, de découvrir le marché, commercialiser nos premiers produits. Et 2020-2025, il y a vraiment une stratégie d'expansion, cette fois, et d'accélération, que ce soit en termes de notoriété et de produits, de catégories de produits présents aussi sur le marché français.
Très bien. Donc, pour envahir et on va dire faire creuser son trou dans un marché, il faut des bons produits, des bons rapports qualité-prix. Pour l'instant, on trouve des télé Hisense dans les Fnac et certains magasins, etc. Mais on a l'impression que c'est pas vraiment du premium, c'est-à-dire que on trouve des produits qui sont souvent au très bon rapport qualité-prix, à des prix vraiment très très intéressants. C'est une stratégie qui est voulue et qui est peut-être contradictoire avec celle que vous nous expliquiez il y a un instant en Chine, non ?
Ouais. Non, alors c'est encore une fois, merci de la question parce que je l'aurais pas mieux posé. En fait, quand on arrive sur un nouveau marché en tant qu'un leader international, on a plusieurs approches. Et la première approche, c'est quel niveau de prix on veut pour arriver sur un marché. Tant qu'on n'est pas assez connu en France, on ne peut pas se permettre d'arriver avec des produits qu'on peut vendre en Chine extrêmement chers. Il faut quand même pouvoir arriver avec des produits de qualité, mais qui savent se démarquer. Donc, en résumé, soit on va arriver avec des produits premium qui seront plus abordables, soit même niveau de prix par rapport à des concurrents, on va proposer plus de choses, plus de technologies, de meilleures finitions.
Vous n'avez pas le choix finalement.
C'est aussi pour
vos leviers marketing pour que justement votre marque pénètre en
exactement,
fait dans les foyers
français. Ça permet aussi de faire ses preuves sur des bons produits. Ce qui ne nous empêche pas de lancer en 2020 typiquement des produits de très haute qualité, des produits à 5000 euros par exemple avec un laser TV 4K courte focale.
On va en parler dans un instant.
Voilà, avec une diagonale de 100 pouces. On l'avait déjà évoqué ensemble.
Oui. Au CES de Las Vegas,
voilà,
il y a 2 ans.
Exactement.
En effet.
Vous étiez précurseur sur le sujet, encore une fois, bravo.
Enfin, c'est surtout vous, moi, je n'ai pas construit la télé. Hein. J'ai simplement constaté que vous étiez sur ce marché.
Et donc voilà. Et on change aussi aujourd'hui notre approche. On monte en gamme progressivement. Et en 2021, vous allez voir qu'on a des produits qui sont assez incroyables à ce niveau-là.
Alors, je disais, il faut de bons produits. Aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce hein, dans le domaine de la télé. Il y a les Samsung, il y a les Sony, il y a les Philips, il y a TCL, il y a TP Vision. Enfin, il y a énormément de marques. Comment vous démarquez de tous ces concurrents, en fait ?
Alors, j'irai par deux choses. La première, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, nous, un véritable industriel. Dans certaines marques que vous avez citées, je ne vais pas les mentionner, et il y a des marques qui ne fabriquent pas leurs propres téléviseurs. Donc ça, c'est important aussi pour nous, c'est de maîtriser toute la chaîne de la production, de la R&D, de la production jusqu'à la distribution. En plus de ça,
Vous fabriquez.
Exactement.
Vous réfléchissez les produits, vous les fabriquez,
design,
et vous les vendez.
Design, fabrication, exactement. Ce qui permet aussi d'avoir une intégration parfaite en termes d'interface, de télévision connectée, etc. etc. En plus de ça, Hisense, on n'est pas qu'un fabricant de téléviseurs, on est aussi un fabricant, comme je disais en introduction, de tous les autres biens de la maison. De réfrigérateurs, de lave-linge, de cuisson, etc. Ce qui fait qu'on a une approche vraiment globale que tout le monde n'a pas sur le marché. Aujourd'hui, si on veut simplifier, mis à part les deux grandes marques coréennes que vous avez citées, je pense qu'on est le seul et unique intervenant à faire les autres produits de la maison à l'international. Donc ça nous donne aussi une légitimité.
TCL ne fait pas d'électroménager
J'ai cru comprendre qu'il commençait à arriver doucement en Europe sur ce type de produits-là.
Vous faites des smartphones, tiens, par exemple.
Alors, à l'international, on fait des smartphones et on a décidé l'année dernière d'arrêter sur le marché français pour se concentrer sur la télévision et les biens d'équipement. Mais à l'international, oui, on fait également des smartphones.
D'accord. Et en termes de technologie, par exemple, d'écran, alors on va parler tout à l'heure de ces projecteurs à courte focales qui sont des trucs incroyables, hein, qui donnent envie de se créer un cinéma à la maison dans un instant. Mais en termes de télé, il y a la bataille QLED, OLED, mini LED, etc. Qu'est-ce que vous êtes dans quel camp ?
Alors, on est dans aucun camp et dans tous les camps à la fois. On a, nous, une stratégie qui est très claire, c'est de proposer le meilleur produit aux consommateurs, aux utilisateurs, quel que soit leur choix technologique. Dit autrement, aujourd'hui, Hisense, je pense, est la seule marque au monde à proposer l'intégralité des technologies d'affichage. Vous les avez dit, que ce soit du LED avec du QLED, du mini LED demain, que ce soit avec de l'OLED ou que ce soit avec de la projection laser. Donc aujourd'hui, Hisense propose l'intégralité des technologies d'affichage du marché.
Vous parliez d'OLED, et que vous fabriquiez toutes vos télés. Là, l'OLED, c'est pas vous qui le fabriquez. Vous achetez des dalles, j'imagine, à LG, par exemple.
On ne fabrique pas nos dalles. Nous, pareil, en tant que fabricant de télé, on a fait le choix complètement assumé de ne pas fabriquer les dalles. Nos dalles. L'intérêt pour ça, c'est qu'on peut aller choisir la meilleure qualité de dalles au meilleur prix.
D'accord.
Alors que quand on est fabricant de dalles, en fait, on est entre guillemets bloqué avec ses propres productions. Donc ça, pareil, c'est un vrai choix de groupe qui a été fait depuis des années.
Donc en France, je peux trouver, enfin, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais peut-être qu'en 2021, ça sera le cas, je peux trouver du QLED, de l'OLED, du LED, et demain du mini LED.
Et demain du mini LED. Je ne peux pas trop en dire aujourd'hui, mais demain, peut-être du mini-LED, en effet. Et de la vidéoprojection courte focale.
D'accord. Et alors, on va parler de vidéoprojection courte focale, parce que c'est un sujet, enfin, moi, que je trouve passionnant, et ça donne vraiment envie de s'équiper. Un mot sur la connectivité, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Ouais. Hein. Aujourd'hui, on achète une télé, il faut qu'elle soit connectée. Quelle est votre stratégie, là? Vous avez pris quel système pour connecter les télés?
On a notre système maison. Aujourd'hui, on sait l'importance de la maison connectée, aujourd'hui et surtout demain avec l'arrivée de la 5G, entre autres. Et on a notre pro-système qui s'appelle VIDAA, V-I-D-A-A. Et c'est le système qui est intégré dans tous nos téléviseurs connectés, qui est fait maison. L'avantage de faire sa propre interface maison, c'est qu'on gère complètement les mises à jour, le suivi des produits, etc. Et c'est également cette interface qui va être retrouvée dans les produits connectés, en gros électroménager, en petit électroménager de demain.
Et est-ce que ça veut dire que j'ai malgré tout tous les services que j'aime de Disney+, en passant par Netflix, etc.
C'est ça. Donc, typiquement, sur la télécommande, vous avez des boutons d'accès direct à... on ne va peut-être pas tous les citer, mais différents services, soit Netflix, YouTube, etc. Disponibles sur l'application.
Tous ? C'est-à-dire qu'en France, ils seront tous là ?
Non. Il en manque encore un ou deux, sachant qu'on y travaille pour les avoir dès 2021.
D'accord.
Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage du téléviseur connecté a aussi changé depuis des années. Je me souviens, mes premiers téléviseurs connectés, il y avait Facebook, en fait c'était la course aux applications. Mm-hmm. Aujourd'hui on s'aperçoit dans des études clairement qu'un utilisateur de télé connecté va se servir à 90% de 3-4 applications qui sont toujours les mêmes et qui sont des applications de vidéo, sachant qu'on a une particularité en France, c'est qu'on utilise aussi beaucoup nos box internet.
Oui,
qui est une spécificité française, qui sont compatibles avec les téléviseurs Hisense, et maintenant il y a aussi plein d'autres choses comme les Chromecast et autres pour compléter. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est, c'est ce que je disais, on maîtrise vraiment l'écosystème entier. D'accord. De la R&D à fabrication jusqu'à cette interface propriétaire.
Un mot sur ces projecteurs courte focale que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est pas une spécificité à votre marque, hein. Il y a d'autres grands constructeurs, notamment Samsung, LG, Sony, etc., qui en proposent. Mais c'est vrai que très tôt, vous avez misé sur cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et tous ceux qui sont avec nous en vidéo le voient. C'est de la projection, mais de la projection... on va dire d'une nouvelle génération, quoi, en quelque sorte.
Ouais. Ouais, petit clin d'œil, quand on s'était vu au CES, je me souviens qu'on était les premiers à parler de cette technologie-là, et c'est vrai que depuis, certains grands acteurs du marché que vous avez cités nous ont rejoints, ce qui légitime aussi notre approche en tant que leader de cette catégorie. Le gros bénéfice de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui, un téléviseur, au-delà de 75 pouces, le coût de la dalle est tellement important qu'on est sur des prix qui ne sont plus raisonnables.
Même si les coûts baissent, hein, aussi, Damien, on s'en rend compte.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on a des immenses téléviseurs à des prix, somme toute, assez abordables.
Tout à fait, mais ça restera... C'est pour ça que je donnais cette limite de 75 pouces, c'est qu'on sait que sur le 75...
Après 75, ça,
voilà, exactement.
Combien ça coûte un 85 pouces aujourd'hui
En téléviseur?
Ouais.
Alors, nous, on ne commercialise pas sur le marché français, mais je crois qu'on peut vite arriver à minimum 5000 euros, à mon avis. Hein. Et ensuite, quand on va commercialiser des tailles énormes, comme du 100 pouces... On est sur des montants...
Sur des prix stratosphériques.
Voilà, exactement. Et donc, tout l'intérêt du laser TV, c'est que c'est le mix parfait entre un vidéoprojecteur, donc avec des très grandes diagonales. On se parle de 100 pouces, de 120 pouces, par exemple. Mais également, l'intérêt d'un téléviseur avec une très haute luminosité. Parce que ce n'est pas une ampoule que vous avez dedans, c'est la projection laser. Et ce qui fait que ça vous permet d'avoir des choses qu'on peut voir à l'écran, des très grandes diagonales, des écrans de projection de 100 pouces ou de 120 pouces que vous pouvez utiliser en pleine lumière, alors qu'un vidéoprojecteur classique, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui on est quand même obligé de se mettre dans le noir, de fermer les volets. Donc, ce qui fait que ça répond aux besoins de plus en plus présents des Français. On parlait tout à l'heure de téléviseurs de demain, qui est d'avoir des diagonales de plus en plus grandes.
D'accord. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix, ces projecteurs courte focale?
Je vais vous donner un exemple très concret d'un laser TV 100 pouces aujourd'hui à Hisense sur le marché que vous trouvez à moins de 5000 euros. Si on fait la comparaison, un téléviseur 100 pouces, aujourd'hui sur le marché français, ça doit être à peu près, minimum 20 000 euros.
D'accord.
Et sur le package...
En 4K.
Ah oui, on est sur du 4K, on est sur le vidéoprojecteur, mais également l'écran de projection. On est sur le package complet.
D'accord.
Sachant que dans ce vidéoprojecteur, vous avez le téléviseur connecté, vous avez une prise antenne pour regarder la télé de manière classique. Vous avez
c'est une vraie télé, en fait.
Vous avez toute la connectique téléviseur, vous avez tous les réglages que vous pouvez avoir sur les téléviseurs pour les plus pointus d'entre vous, que ce soit les régler la balance de blanc, des couleurs, etc. Mais avec le confort visuel de vidéoprojection.
L'intérêt, c'est que cette boîte, au lieu d'être accrochée au plafond
d'aller passer des câbles,
ou de l'autre côté de la pièce, puisque c'est ça la projection, hein, voilà, c'est un peu comme le cinéma, hein, on sait comment ça fonctionne, là, comme ça, courte focale, en fait, l'appareil est quasi collé au mur.
C'est ça, vous le posez, c'est grosso modo à 20-30 cm de votre mur, vous appuyez sur « on » et c'est parti, ça démarre. C'est vraiment tout l'intérêt, c'est une facilité, vraiment facilité d'utilisation.
Mais est-ce qu'on a la même qualité d'image, la bien marque, qu'une vraie télé ?
Alors, oui, mais pour ça, il faut utiliser un écran de projection qu'on appelle un écran de projection technique qui va aller capter la lumière pour aller projeter plus de luminosité. C'est ça aussi, c'est ce combo des deux, du laser TV et de l'écran de projection qui va permettre d'avoir ce résultat et de pouvoir regarder la télévision en pleine lumière. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix unique sur ce marché-là de proposer le package des
D'accord.
deux. Parce que
sur un mur blanc, par exemple.
J'allais dire, sur un mur blanc, ça fonctionne. Techniquement, vous allez pouvoir avoir votre image. Mais c'est important de comprendre, c'est que la vidéoprojection corde focale, comme vous l'avez dit, on le pose près du mur. Donc la projection se fait par le bas. Donc toutes les micro-aspérités que vous allez avoir sur le mur, qui sont ce qu'elles sont, que vous ne voyez peut-être pas à l'œil nu, ça va créer des petites ombres, en fait.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment cet écran technique qui est nécessaire. Et nous, dans notre package de produits, on vend l'intégralité.
En revanche, bon, ça veut dire qu'on se retrouve avec un grand truc qui est posé sur le mur, même quand c'est éteint.
Tout à fait.
Mais on peut imaginer, par exemple, un système d'écran amovible qui pourrait être motorisé, pourrait disparaître ou pas ?
On peut d'autant plus se l'imaginer, c'est que on a montré lors du dernier CES un laser TV enroulable avec l'écran qui va aller se mettre dans le meuble directement du produit. Donc c'est des choses auxquelles on travaille très sérieusement qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le marché français mais que je serais ravi très prochainement en tout cas de vous présenter.
C'est quoi l'avenir de la télévision chez Hisense, Damien et Marc ? Je sais que bientôt il y a le CES de Las Vegas, non ? Le CES digitalisé, puisque vous le savez, d'habitude ce grand rendez-vous se tient à Las Vegas, mais cette année, pour cause de pandémie, il est simplement numérique. Je ne sais pas si vous y participerez, si vous y annoncerez des choses.
Hisense va avoir une conférence digitale,
d'accord.
En effet.
C'est quoi la tendance pour l'année 2021 et pour les années qui viennent en termes de télévision ?
La tendance, selon moi et selon Hisense, elle est toujours à faire, vous en parliez, disparaître un peu le téléviseur de nos salons en tant qu'objet. Et c'est pour ça que, de manière très concrète, sur le marché français, nous, on a des produits qui ont des bords extrêmement fins ou qui n'ont même plus de bords pour laisser vraiment place à l'image. La tendance, elle est également sur le son, avec des nouvelles technologies comme Dolby Atmos qui viennent vraiment enrichir et avoir un son beaucoup plus immersif. Je ne peux pas trop vous en dire aujourd'hui, je serais ravi de vous en reparler dans quelques semaines.
Mais il va y avoir des innovations dans ce domaine-là.
Il va y avoir, en tous les cas, chez Hisense, je ne peux pas vous dire pour les autres, mais des très grosses innovations au niveau du son intégré dans les téléviseurs sur lequel on va aller rajouter
un peu comme des barres de son qui créent une immersion sonore, c'est ça.
Dès 2020, on a déjà intégré des barres de son à nos produits et on va aller au-delà en 2021 avec des sons beaucoup plus immersifs, avec beaucoup plus de technologies embarquées. Et évidemment, il ne faut pas le négliger aussi avec l'arrivée des consoles nouvelle génération qui vont aussi permettre enfin aux téléviseurs d'aller pouvoir s'améliorer sur ça en termes de technologie d'affichage 4K, de fréquence, etc.
D'accord.
Donc à très court terme, en tous les cas, c'est ce qui va être proposé sur le marché en France en 2021.
Et la télé du futur, celle qui nous fait rêver, est-ce qu'on peut imaginer demain avoir des écrans enroulables qui pourraient se déplier facilement, couvrir la totalité d'un mur, des choses comme ça.
En effet, c'est des sujets auxquels on réfléchit, que ce soit des écrans complètement invisibles quand ils sont éteints, qui sont complètement... Là, on se parle vraiment d'intégration dans l'intérieur, ou des écrans qui peuvent aussi être flexibles en termes de dimension, avec avec des écrans souples qui peuvent s'agrandir ou rétrécir à volonté. Ça, c'est pour demain.
Bon, en tout cas, on va suivre vos annonces durant ce CES donc 2021 qui sera digital. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
On va suivre donc l'arrivée de Dysense en France en 2021, notamment par le foot entre autres. Merci beaucoup.
Merci.
Rappelons que vous êtes responsable marketing donc de Hisense France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Évidemment, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se fait un petit break. On reviendra le 8 janvier sur 01TV et en audio. Et puis, sachez que j'aurai le plaisir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de vous retrouver sur BFM Business à partir du 4 janvier pour Tech & Co. Donc, ça sera mon nouveau rendez-vous sur BFM du lundi au jeudi, 20h-22h. Si vous êtes un fan de tech, je vous invite à m'y retrouver à partir du 4 janvier. Donc, bonne fête à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01TV.